Bonjour! Vous écoutez l'épisode 29 des Dessous de la cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et sincérité le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel, biologiste, chimiste et cofondatrice des soins bio, actifs et sensoriels Mastel. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que notre crème et notre huile qui retardent l'apparition des signes de l'âge sont sorties il y a 2 jours, donc vous pouvez foncer sur mastelcosmetics.com pour les retrouver. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la composition des produits solaires. C'est un épisode qui suit les 2 derniers épisodes, donc sur les produits solaires. Donc je vous invite à les écouter dans l'ordre pour une meilleure compréhension. Et il y aura un dernier épisode sur les solaires qui sortira dans 2 semaines, et ça sera l'épisode numéro 31. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans un premier temps les différents filtres UV, ensuite leur mode d'action, et finalement les challenges de la formulation de solaire. Alors, pour qu'un produit solaire fonctionne, il faut qu'il contienne des filtres UV, donc des filtres ultraviolets. Il existe différents types de filtres solaires, donc on les classe généralement en 2 catégories. Premièrement, les filtres organiques, et deuxièmement, les filtres minéraux. Les filtres organiques sont les filtres que l'on appelle aussi chimiques ou synthétiques, et les filtres minéraux, on les appelle aussi les filtres inorganiques ou physiques. Alors, je pense que l'appellation la plus répandue, c'est chimique vs minéraux, mais vous ne m'entendrez sûrement pas appeler les filtres organiques comme des filtres chimiques, parce que je trouve que ce terme porte un peu à confusion. En fait, j'aime pas dire qu'un filtre est chimique, parce que, en fait, tout est chimique. La chimie, c'est l'étude de la matière, et donc tout ce qui se touche peut être étudié sous le prisme de la chimie. On peut dire qu'on boit de l'eau, ou on peut dire qu'on boit de l'H2O. Donc en référence à la molécule d'eau qui est composée de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc autre aparté aussi, concernant le nom de ces filtres, on les appelle également des filtres organiques, faisant référence aux molécules qui contiennent des atomes de carbone et d'hydrogène. C'est un faux ami avec l'anglais, c'est pas organique comme biologique, c'est organique faisant référence à la chimie organique, qui est la chimie des molécules qui contiennent du carbone et des hydrogènes. Alors, on va commencer par la description des filtres organiques. Les filtres organiques sont des filtres qui ont été synthétisés à cet effet, donc c'est-à-dire qu'ils ont été fabriqués grâce à des procédés chimiques, et ces procédés chimiques-là, ils ne sont pas autorisés dans le référentiel COSMOS, donc qui est le référentiel pour les produits certifiés bio. Ça veut dire que si un produit contient des filtres organiques, il ne peut pas être certifié bio. Donc, si vous cherchez une crème solaire certifiée bio, c'est sûr qu'elle ne contiendra aucun filtre organique. Les avantages des filtres organiques, c'est qu'ils protègent très très bien et permettent d'atteindre des hauts SPF, tout en ayant une texture plutôt agréable. Ils sont très majoritairement solubles dans la phase grasse, donc les formules contiennent une importante phase grasse. Mais pour autant, il y a des petites minorités de filtres organiques qui sont solubles dans la phase aqueuse, donc tels que le DPDT par exemple. Les désavantages des filtres organiques sont que certains sont un peu moins bien tolérés, donc là je pense à la vaubenzone, à l'octocrylène, à l'oxybenzone par exemple. Mais si vous ne le savez pas, c'est que vous n'êtes sûrement pas sensible à ces molécules et c'est que vous n'avez sûrement pas expérimenté des désagréments de ce type. Donc en fait, il n'y aurait aucune raison de bannir ces filtres-là pour vous, en tout cas pour cette raison. Petite précision aussi, je parle d'avobenzone et d'oxybenzone, mais ce sont une sorte de surnom qu'on donne à ces molécules, et ce ne sont pas les noms qu'on retrouve dans la liste INCI. Mais par contre, vous pouvez retrouver les noms de la liste INCI dans les notes de cet épisode sur le site mastelcosmetics.com dans la rubrique podcast. Je vous dis ça parce que les noms sont super longs et un peu compliqués, je pense que ça ne serait pas utile que je le dise en podcast. Mais c'est avobenzone et oxybenzone, ce sont des surnoms, disons, assez faciles à retenir. Donc un autre petit désavantage de certains filtres organiques, comme la vaubenzone, ce sont leur stabilité. En fait, certains filtres deviennent un peu moins efficaces dans le temps ou en présence d'autres matières premières. Mais ça, c'est surtout un problème qui concerne davantage les formulateurs que les consommateurs. Donc ne regardez pas votre liste INCI en cherchant la vaubenzone, en le pointant du doigt et en disant « Ah, cette formule ne va pas être stable !» Non, c'est pas vrai. Si le formulateur a fait un bon travail, il a réussi à stabiliser la formule. Alors ensuite, on vient de parler des filtres organiques, mais il y a les filtres minéraux. Donc eux, les filtres minéraux, ça va être le dioxyde de titane ou l'oxyde de zinc. On peut les retrouver dans la liste INCI sous le nom titanium dioxide ou zinc oxide. Ils sont obtenus tous les deux à partir de minéraux, donc c'est-à-dire des roches, et sont acceptés dans les formules certifiées bio. Cependant, ce sont des particules inorganiques, donc il faut les disperser dans la formulation. Cette dispersion n'est pas toujours facile, et les fournisseurs de filtres solaires, souvent, ils enrobent les filtres minéraux pour faciliter leur dispersion. C'est-à-dire, ils mettent quelque chose autour de ces toutes petites particules, ça est un enrobage. Et cet enrobage, il peut ou non être accepté par le référentiel Cosmos pour la cosmétique bio. Ces enrobages, généralement, ils servent aussi à améliorer la sensorialité des formules qui contiennent ces filtres et éviter notamment l'aspect un peu plâtreux. La taille des particules utilisées ont aussi un gros impact sur la sensorialité de ces filtres. En fait, ces filtres, ce sont des pigments blancs. Donc les filtres minéraux, ils laissent souvent une trace blanche sur la peau. Et c'est particulièrement gênant quand on a une peau foncée. Donc quand on utilise des filtres de petite taille, donc c'est-à-dire avec des particules de moins de 100 nanomètres, donc c'est-à-dire 10 000 fois plus petit qu'un millimètre, donc c'est-à-dire très petit, eh bien le fini blanc, il va être très atténué. Le CSSC, donc le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs, dont l'acronyme en anglais, hein, c'est SCCS, donc des fois j'utilise SCCS au lieu de CSSC. Et bien, ce comité, il a décrété que les nanoparticules étaient sûres et ne pénétraient pas la peau au vu des études scientifiques qui étaient disponibles en 2014 quand ils ont étudié cette question. Donc, si un ingrédient de votre cosmétique est de taille nanoscopique, que la mention nano entre crochets sera présente dans la listing key d'ailleurs, eh bien cela ne pose pas de problème sur la santé, selon le CSSC. Alors, dernière information qui date d'il y a 2 mois, donc de juin 2022, qui est d'ailleurs tombée suite à l'opinion de l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, donc l'EFSA, sur le titanium dioxide, donc pardon, sur le dioxyde de titane. En fait, le dioxyde de titane, il est plus considéré comme sain en tant qu'additif alimentaire. On le retrouve dans les chewing-gums, certains bonbons, etc. La Commission européenne a alors demandé au CSSC de réévaluer la sécurité du titanium dioxide dans certains cosmétiques. Donc à partir de ce moment-là, donc à partir de juin 2022, ils ont 9 mois pour exprimer leur avis. Donc on devrait en savoir plus en mars-avril 2023. Donc en plus d'être acceptés dans la cosmétique bio, les autres avantages des filtres minéraux sont qu'ils ont une excellente tolérance cutanée et sont très stables. Alors, je voulais aussi parler du mode d'action de ces filtres UV parce qu'on entend souvent des petites erreurs sur les réseaux sociaux. En fait, les filtres solaires organiques, comme les filtres minéraux, absorbent les rayons UV et les transforment en chaleur. Et cette chaleur, elle est imperceptible, hein, vous n'allez pas le sentir. Et c'est ainsi, en fait, que les filtres protègent notre peau des rayons du soleil. Le mythe que l'on entend beaucoup dans l'industrie cosmétique, c'est que les filtres minéraux reflètent la lumière, comme des petits miroirs à la surface de la peau, contrairement aux filtres organiques qui, eux, absorberaient les rayons. Mais en fait, selon une étude récente de 2015, seulement 5% de la protection solaire qui est apportée par les filtres minéraux proviennent de la réflexion. Et du coup, 95% est de l'absorption, tout comme les filtres organiques. Donc en fait, ce que vous devez retenir, c'est que les filtres solaires, organiques ou minéraux, ils absorbent les rayons UV, ils la retransforment et du coup, ça limite les dégâts de ces rayons sur notre peau. Ensuite, je voulais parler un petit peu plus de manière technique, donc en parlant de la difficulté de la formulation de produits solaires dans l'industrie cosmétique. En fait, les solaires, ce sont une catégorie des plus techniques de la formulation de cosmétiques. La solubilisation, la dispersion des filtres, elle doit être parfaite pour avoir une couche uniforme sur la peau à l'application. Et le paysage réglementaire est aussi très complexe car la législation est très différente d'un pays à l'autre. Du coup, il y a certains pays qui considèrent pas les crèmes solaires comme des cosmétiques, mais qui les considèrent comme une catégorie que l'on appelle OTC, par exemple, Over the Counter, ou QD, Quasi Drug, qui sont en fait des catégories intermédiaires entre le cosmétique et le médicament. Du coup, il est très difficile de formuler un solaire avec un très haut SPF qui soit approuvé partout dans le monde. Un des autres challenges de la formulation cosmétique, c'est celui des brevets. Il y a beaucoup de grands groupes qui ont breveté des associations de filtres et du coup ça réduit les possibilités des autres petites entreprises. En plus de cela, les produits solaires doivent contenir des filtres UV qui sont autorisés par les autorités. Notamment, on a déjà parlé du règlement européen 1223-2009 qui régule les produits cosmétiques en Europe. Dans ce règlement, il y a plusieurs annexes, dont l'annexe numéro 6, qui liste tous les filtres UV qui sont autorisés dans des cosmétiques. C'est-à-dire pour qu'un produit soit un produit solaire avec des revendications de l'ordre d'un SPF, il faut qu'il contienne au moins un filtre UV qui soit listé dans cette annexe. Donc quand des grands groupes brevettent des filtres solaires, c'est-à-dire que les autres entreprises n'auront pas la possibilité de les utiliser de la manière dont ils ont été brevetés. Donc ça peut être un brevet d'une certaine association de filtres avec comme spécificité ce filtre entre ce pourcentage A jusqu'à ce pourcentage B par exemple. Un autre challenge de la formulation des solaires, c'est d'un point de vue organisationnel. En fait, il est difficile d'être réactif lorsqu'on formule un produit solaire, qu'il faut tester donc le SPF, les UVA, etc. Et ça se rajoute, ce sont des tests qui se rajoutent lors du développement. Ils sont plus difficiles à prédire. C'est-à-dire que ces tests coûtent cher et sont plus longs. Donc ça veut dire que si on n'obtient pas le SPF voulu directement, il faut refaire des essais, resoumettre en test, etc. Je m'adresse ici aux formulateurs. Pensez bien à utiliser le simulateur de BASF avant de formuler pour une grosse approximation du SPF que vous allez obtenir. Alors, outre cette petite aparté, je voulais parler des DIY, donc des do-it-yourself en cosmétique. Donc de manière générale, je recommande jamais les recettes maison au DIY, parce que pour moi, il n'y a pas de contrôle qualité, il n'y a aucune vérification qui a été faite quant à la sécurité, etc. Mais pour les solaires, je vous en conjure, n'en faites absolument pas. La formulation de solaire est super compliquée, déjà pour les industriels, qui ont des super agitateurs, donc qui va aider pour la solubilisation, la dispersion des fils par exemple. Imaginez les chances qu'à la maison, vous arrivez à avoir une formule qui s'applique en couche homogène. C'est pas possible, vos chances sont minuscules, ce n'est pas possible. De plus, le SPF, il n'est pas seulement atteint grâce au filtre solaire, il y a de nombreux autres facteurs qui jouent sur le SPF, en plus de l'utilisation des filtres solaires. Par exemple, il y a d'autres ingrédients dans la formule qui existent, qui vont jouer sur le SPF. Il y a des matières qu'on appelle des boosters, qui vont aider à atteindre le SPF souhaité. Il y a la distribution des filtres solaires au sein de la formule qui va jouer également. Il y a l'interaction des ingrédients dans la formule, car on a vu que certains filtres n'étaient pas super stables. Il y a le pH qui peut faire varier un petit peu le SPF obtenu, notamment avec l'oxyde de zinc. Il y a les propriétés d'étalement de la formule sur la peau qui sont super importantes, puisqu'en fait, la texture du solaire doit permettre une application en couche homogène, c'est-à-dire qu'il y ait la même épaisseur un peu partout et du coup la même concentration en actif, en filtre UV, un peu partout sur la peau. Ça, c'est super difficile à atteindre à la maison. Vraiment, ne faites pas de SPF à la maison, faites confiance aux industriels. Alors, en conclusion de cet épisode, les produits solaires doivent contenir un ou plusieurs filtres UV pour limiter les dégâts du soleil. Ces filtres UV sont soit des filtres minéraux, donc comme l'oxyde de zinc ou le dioxyde de titane, soit des filtres organiques. Les filtres minéraux sont, eux, autorisés dans les certifications bio. Ils sont généralement mieux tolérés que les filtres organiques, mais ils laissent plus de traces blanches et les textures peuvent être un peu plus plâtreuses. À vous de choisir un solaire que vous aimez et que vous allez réappliquer lors de votre exposition. Les filtres UV fonctionnent en absorbant les rayons UV et en les transformant en chaleur imperceptible. Et la formulation de produits solaires est l'une des plus techniques dans l'industrie cosmétique parce que l'efficacité du produit va dépendre de plein de facteurs, pas seulement du filtre solaire utilisé. Donc on a mentionné la solubilisation du filtre, mais aussi l'interaction du filtre avec les autres matières dans la formule, le pH, les propriétés d'étalement du produit, etc. Et tout ça, ce sont d'autant plus de raisons de ne pas faire de produits solaires à la maison. Ils ne pourront pas répondre aux normes et à la qualité des produits industriels. Et du coup, ils peuvent éventuellement vous mettre en danger. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez plus sur la composition des produits solaires. Comme toujours, vous pouvez retrouver les notes de cet épisode et notamment le nom INCI des filtres solaires organiques qu'on a mentionné sur mastelcosmetics.com dans la rubrique podcast. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que sur ce même site, donc mastelcosmetics.com, vous pouvez retrouver la crème et l'huile de Mastel qui viennent tout juste de sortir, donc il y a 2 jours. Vraiment, je suis super excitée à l'idée de ce lancement. Ce sont des soins qui sont bio, qui sont efficaces et qui sont sensoriels. Et du coup, la crème et l'huile, elles sont ultra concentrées en antioxydants. et ça va permettre de protéger votre peau contre les agressions environnementales qu'elle peut subir au quotidien. En fait, on en a déjà parlé, hein, mais selon une certaine étude, il y a 90% des signes de l'âge qui sont dus à notre environnement et qui ne sont pas dus du coup à notre génétique. Donc en fait, sur ces 90% des signes de l'âge qu'on peut voir, eh ben, on peut vraiment avoir une action sur ces signes de l'âge. Et donc, c'est la cible première de nos soins. Parce que vous le savez, la pollution, la fumée de cigarette, le soleil, tout ça, ça endommage votre peau au quotidien. Et les antioxydants, ils aident à limiter ces dégâts. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous en attendant le prochain épisode qui sera un épisode sur les ingrédients. Parce que vous savez, tous les 5 épisodes, on fait un petit focus ingrédients. Et la semaine prochaine, ça sera sur le collagène et ses bienfaits. Bye !